Bonsoir, comment allez-vous ? Connaissez-vous l'histoire de ce professeur de faculté qui arrive un jour en amphi devant ses élèves avec trois seaux ? Le premier est rempli de pierres, le deuxième de cailloux et le troisième de sable. Il montre le seau de pierre et demande aux élèves s'il est plein. Oui, répondent-ils en chœur, puisque les pierres arrivent jusqu'en haut. À ce moment-là, il prend le seau de cailloux et le verse dans celui de pierre. Tous les petits cailloux rentrent en se faufilant, comme vous l'imaginez, dans les interstices. Il demande alors aux élèves « Est-ce que cette fois-ci mon seau est plein ?» Les élèves se sont fait avoir une fois, ils remarquent qu'il reste un seau de sable et répondent « Non ». « Vous avez raison, dit le professeur. Avant de verser le seau de sable dans le seau de pierre et de cailloux, le sable rentre alors sans problème en se coulant entre les pierres et les cailloux. Et maintenant, leur demande-t-il, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer ?» Comme c'est un professeur qui donne pas mal de travail, les jeunes répondent qu'on peut toujours travailler plus. « Pas tout à fait, répond l'enseignant. J'ai voulu vous montrer qu'il était impératif pour obtenir un bon résultat de faire les choses dans l'ordre. Si j'avais commencé par le sable, il aurait tapissé le fond du seau et je n'aurais plus pu faire rentrer les pierres et les cailloux.
Bonjour. Je m'appelle Philomane, j'ai 5 ans. J'aimerais savoir quelle partie en premier on fabrique dans le ventre de sa maman. Merci, au revoir.
Bonsoir Philomène. Vincent Fleury, biophysicien et directeur de recherche au CNRS. Que pensez-vous de cette question ?
Alors, bonsoir Philomène. Je suis un peu embarrassé que tu me poses cette question, parce que c'est une question où on hésite un peu à répondre. Parce que
on
tout
sait
simplement...
pas.
Si, on sait très bien. Mais la première partie que les vertébrés, et en particulier l'homme...
Le zizi.
...font, c'est le petit trou par lequel on fait caca.
Ah, voilà.
Je suis désolé, j'espère que vous n'êtes pas à table. Donc c'est l'anus, voilà. Alors je dirais que même en biologie, ça embarrasse, puisqu'on n'ose pas dire qu'on fait l'anus en premier, c'est le premier organe qu'on fait. Alors on qualifie les vertébrés de deutérostomes, donc c'est un mot très scientifique, hein, pour dire qu'on fait la bouche en second. Mais en fait c'est une façon aimable de dire que la première chose que l'on fabrique et qui en fait va causer la fabrication de tout le reste, c'est l'anus. La science parfois est un peu ironique quand même.
Et en deuxième alors ?
Alors en deuxième, on dit qu'on fait la bouche en deuxième, alors c'est pas tout à fait exact. On fait d'abord l'anus et ensuite on fait un espèce de grand pli suivant l'axe antéro-postérieur, donc entre la tête et l'anus, on fait un espèce de grand pli qui est, disons, le pli charnu qui fait le dos, le milieu du dos. Voilà, le milieu du dos. Le système nerveux et ce qu'on appelle la corde, c'est-à-dire en gros, l'espèce de arête centrale qu'ont les vertébrés.
Et au bout, la bouche.
Et au bout, la bouche, oui.
Et puis après, on peaufine.
Alors après, on fait, dans un certain ordre, on fait les pattes, et après on fait le ventre, le système digestif, et après on fait les détails.
Si je comprends bien, la tête n'est pas en première position.
Non, la tête n'est pas en première position. C'est d'abord la partie postérieure, et ensuite les détails faciaux. Alors ça dépend aussi des animaux, il y a des animaux qui n'ont pas de tête, hein, comme Amphioxus. Mais les animaux qui ont une tête, ils vont fabriquer en cascade toutes les parties de la tête. Donc en gros, d'abord les yeux, le nez, la bouche, puis les oreilles.
Vincent Fleury, donc biophysicien, directeur de recherche au CNRS, je vous l'ai dit, spécialiste de la morphogenèse. Je vous cite ses deux derniers ouvrages, Je les revois chez Publinet et Les tourbillons de la vie, une simple histoire de nos origines chez Fayard. Je trouve que cette réponse, je vous ai dit que vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr. Si vous avez quelqu'un chez vous qui ne sait pas ou qui ne veut pas jeter, cette réponse qui dit que la première chose qui est fabriquée chez l'humain est l'organe de l'évacuation, eh ben, c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez, oui, vous la connaissez si vous écoutez Les Petits Bateaux, Isabelle Cloque-Fontanille, elle est professeure de sciences du langage à l'Université de Limoges.
Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 8 ans. Pourquoi la langue anglaise a été choisie pour parler dans tout le monde au lieu de la langue française ?
Bonjour, ici c'est Martine, une grande enfant de 46 ans. Voilà ma question. Alors, à quel moment dans l'histoire du XXe siècle l'anglais a supplanté la langue française dans la communication internationale? Merci beaucoup, à bientôt Noël. Au revoir.
Bonsoir Martine, nous l'avons coupé, mais Martine précisait, sauf pour les Jeux Olympiques où le français reste la langue officielle. Et puis la question d'Esther, pourquoi l'anglais a supplanté le français? Isabelle Cloque-Fontani, professeure des sciences du langage à l'université de Limoges et spécialiste des langues et des écritures anciennes. Alors pourquoi l'anglais à la place du français?
Là, il y a une date, 1919. Avant, alors bien avant, le latin a joué ce rôle, le français jusqu'en 1919. Hein, est-ce qu'on sait par exemple que Marco Polo, en 1296, avait dicté en français le récit de son voyage?
Ah bon?
Eh oui. Frédéric II de Prusse a remplacé le latin par le français à l'Académie de Berlin. Voilà, donc le français jusqu'en 1919. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1919, lendemain de la Première Guerre mondiale? Le traité de Versailles a été écrit en anglais et en français. C'est le début. Pourquoi ? L'anglais avait déjà commencé à prendre une grande place, c'était une puissance coloniale. Donc évidemment, dans tous les pays où ils ont installé des colonies, ils ont également installé l'anglais. Quand les colonies sont devenues indépendantes, souvent on a gardé l'anglais, parce que ça évitait de choisir un dialecte particulier. Donc l'anglais a pris une importance de plus en plus grande, mais c'est bien en 1919 que l'anglais a pris cette place dans la diplomatie. Alors, en fait, il y avait des raisons très pratiques. Parce que pour la première fois, il y avait des pays non européens qui participaient au traité. Le Japon, les États-Unis, hein, qui font leur entrée sur la scène internationale. Or, les diplomates américains ont toujours refusé, hein, dès qu'ils sont entrés dans la politique européenne, de parler autrement qu'en anglais. Et le protocole de Washington de 1783 avait fixé ce point. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis prenant de plus en plus d'importance, l'anglais a pris de plus en plus d'importance. Cela dit, lors des réunions préparatoires de la création de l'ONU, il y avait 5 langues, hein, le français, l'anglais, le russe, l'espagnol et le chinois. Il fallait choisir à ce moment-là une langue de travail et on a hésité entre le français et l'anglais. Et il faut savoir qu'à une voix de majorité, c'est le français qui a été retenu comme langue de travail. Mais ça a changé évidemment très rapidement puisque ça n'est plus le cas maintenant. Alors le français s'est mieux défendu dans le monde du sport, hein, puisque la question portait aussi sur les Jeux Olympiques. Le Comité international olympique a été fondé à l'initiative d'un Français, hein, Pierre de Coubertin. Et bien sûr, tous les Jeux olympiques ont été imprégnés d'une tradition francophone. Beaucoup de Français ont participé à la création. Et le français est donc la langue officielle à côté de l'anglais, hein, des Jeux olympiques. Et d'ailleurs, pour affirmer le français comme langue de référence des Jeux olympiques, un grand témoin de la francophonie veille lors de chaque édition des Jeux olympiques à l'usage et à la visibilité du français dans le déroulement, oui, des Jeux olympiques.
Pensez-vous, pour conclure, Isabelle Cloque-Fontani, que même s'il n'y avait pas eu ces événements officiels, finalement l'anglais n'aurait pas tôt ou tard pris le dessus?
Oui, bien sûr. Et l'anglais est aussi devenu la langue de la science, comme le latin l'était jusqu'au XVIIe siècle. Donc oui, probablement. Mais je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, parce que la langue qui perd le plus dans cette affaire, c'est l'anglais, c'est pas le français. Hein, parce que l'anglais est de plus en plus simplifié. L'anglais de communication est un anglais qui ne ressemble plus à l'anglais
de Shakespeare.
Donc finalement, on n'a pas beaucoup à s'inquiéter, ni à s'attrister.
Et voilà, et merci. Et pour illustrer les propos d'Isabelle Cloque-Fontani, voici une chanson en anglais tubissime des années 70.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand. Remember your name.
Même si nous défendons le français, reconnaissons que l'anglais, c'est aussi extrêmement joli. C'était donc ce groupe qui a eu un succès fou dans les années 70 américains.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question au petit bateau, vous pouvez faire le 01 56 40 dans les deux langues. 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 7 ans et demi. Dans ma maison, il y a une chaudière à gaz. J'aimerais savoir de quel pays vient le gaz. Au revoir. Et merci.
Merci à toi, Elias, pour ta question. C'est une bonne interrogation de savoir d'où vient le gaz de sa chaudière, Jean-Marc Jancovici.
Eh bien, Elias, le gaz vient de la planète Terre. C'est un grand pays, la planète Terre. Alors, on va commencer l'histoire à son début. À son début, à une époque où tu n'étais pas né, je n'étais pas né, mes ancêtres n'étaient pas nés, et où, en fait, les mammifères n'existaient même pas. Il y a quelques centaines de millions d'années, 1 milliard pour l'origine la plus ancienne. À cette époque-là, on a dans l'océan des petits organismes vivants qui sont soit des micro-algues, soit du plancton. Ces petits organismes vivants, ils vont mourir. Et une partie de ces organismes, une fois qu'ils sont morts, ils tombent sur le fond des océans, où ils vont se mélanger avec de la poussière amenée par le vent, des alluvions amenées par les rivières et des petits bouts de coquilles qui sont aussi des débris des petits animaux qui vivent à ce moment-là. À ce moment, il y a le mouvement des continents à la surface de la Terre, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui fait que de temps en temps, tout ce sédiment va être enfoui dans les profondeurs de la Terre, à l'abri de l'oxygène de l'air. Et là, il y a la chaleur des entrailles de la Terre qui va progressivement chauffer ce mélange et qui va le transformer en gaz, celui qu'on brûle aujourd'hui, en pétrole, celui qu'on utilise aujourd'hui, et puis il va y avoir des petits restes solides qui ressemblent un peu à du charbon, qui eux vont rester là où ils sont. Alors ce pétrole et ce gaz, quand ils se forment dans un sédiment qui lui-même est devenu une roche. Alors il faut qu'ils s'échappent par des petits trous, donc ils vont s'échapper, ce pétrole et ce gaz, et ils vont migrer vers la surface de la Terre. Et puis de temps en temps, il y a une espèce de pierre ponce qui se trouve sur le passage, ou une espèce de calcaire, ou du sable qui se trouve sur le passage, et à ce moment, le pétrole et le gaz vont s'accumuler dans cette roche poreuse, et nous avons créé un gisement de pétrole et de gaz. Parfaitement, gratuitement. Donc la mère nature nous a créé le pétrole et le gaz de façon gratuite, comme le vent et le soleil sont gratuits, le pétrole et le gaz sont gratuits. Et puis un jour, il y a des ingénieurs qui ont découvert ce pétrole et ce gaz sous terre. Donc ils se sont rendus compte qu'on pouvait le faire sortir en allant mettre des tuyaux là où il fallait. Donc le gaz, il appartient aux pays qui un jour se sont rendus compte que Mère Nature avait créé sous leurs pieds des roches poreuses, qu'on appelle des réservoirs, dans lesquels il y a du pétrole et du gaz. Et comme le début de l'histoire, c'est qu'il a fallu faire de la sédimentation, avec des petits organismes et des sédiments minéraux, eh bien ce pétrole et ce gaz, il apparaît dans les bassins sédimentaires. Donc c'est pas la peine d'aller chercher du pétrole et du gaz en Bretagne, par exemple, qui est granitique. On est absolument certain qu'on n'en trouvera pas, parce qu'il n'y a jamais eu de sédimentation à cet endroit-là. Alors où est-ce qu'il y a des bassins sédimentaires aujourd'hui? Eh bien, il y en a un très très grand au Moyen-Orient, et c'est de là que vient le pétrole et le gaz pour une large partie qu'on utilise aujourd'hui. Il y en a un très très grand aux États-Unis, et il y en a un pas très grand, mais pas complètement ridicule, dans la mer du Nord, qui est aussi un bassin sédimentaire. Et alors aujourd'hui, quand on utilise du gaz en Europe, 60% vient de la mer du Nord. Les adultes qui nous écoutent, je suis sûr que quand on leur dit gaz, ils pensent tout de suite Russie. Parce que effectivement, il y a aussi un grand bassin sédimentaire en Russie où s'est formé du gaz de cette manière. Mais la Russie, c'est 20% du gaz qu'on utilise en Europe. 60%, c'est la mer du Nord. La mauvaise nouvelle, si je puis dire, mais qui est aussi une bonne pour le climat, c'est que le gaz qui vient de la mer du Nord, aujourd'hui, il est en déclin. C'est-à-dire que quand on sort ce gaz du gisement dans lequel il est, comme il a mis des dizaines, des centaines de millions d'années à se former, ça se renouvelle pas au fur et à mesure qu'on pompe dans le gisement. Donc le gisement, il finit par s'épuiser. Ça veut dire qu'à un moment, la production du gisement, elle part de zéro, avant qu'on ait planté les tuyaux, puis elle passe par un maximum, et puis ensuite, ça décline, ça diminue. Et la mer du Nord a passé son maximum en 2005, donc ça diminue. Donc on pourrait en utiliser de plus en plus venant des autres zones où le déclin n'a pas commencé, mais pour faire venir ce gaz, c'est long, il faut construire des gros tuyaux qui s'appellent des gazoducs, les gens sont pas contents, ils sont pas d'accord, il faut trouver l'argent pour ça, etc. Donc entre le moment où on décide de le construire et le moment où on a fini de le construire, il se passe 20 ou 30 ans, c'est un peu long. Donc le gaz qu'on utilise aujourd'hui en France, il vient pour l'essentiel de la mer du Nord. Après, il y en a une partie, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait des bassins sédimentaires qui viennent d'Algérie, une partie qui vient de Russie, une partie qui vient du Qatar, et après, il y a des petits morceaux qui viennent à droite et à gauche.
Merci pour cet art de la simplification. Vous pouvez trouver un entretien avec Jean-Marc Jancovici, il y détaille son plan de décarbonation dans Le Monde, daté d'aujourd'hui et demain, Le Monde du dimanche 20 et du lundi 21 février. Donc, entretien avec Jean-Marc Jancovici. Vous entendez un bruit de papier, parce que je tripote justement ce monde pour essayer de vous dire des choses qui sont exactes.
Je m'appelle Maria et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir, est-ce que les singes mangent des bananes dans la nature ?
Maria, c'est Sabrina Krief qui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle et qui est spécialiste des grands singes, qui va répondre à ta question sur ce que mangent les singes dans la nature des bananes.
Alors les bananes en fait ne se trouvent pas dans l'environnement naturel des singes. En fait ils vont trouver dans leur environnement des fruits sauvages. Ce sont des fruits qui n'ont pas été domestiqués, qui n'ont pas été cultivés et qui donc ne sont pas aussi sucrés, aussi juteux, aussi savoureux que ceux que l'on connaît nous. Alors de façon générale, hein, je réponds non, les chimpanzés ou les singes ne mangent pas de bananes.
Parce qu'ils n'en ont pas.
Mais par contre, aujourd'hui, comme l'homme est de plus en plus présent, y compris dans l'habitat des singes, parfois il leur arrive de planter des bananes à proximité de l'endroit où vivent les primates. Et donc, dans ces cas-là, il peut arriver que les singes, et donc les chimpanzés par exemple, aillent piller les cultures des villageois qui vivent à côté. Et bien sûr, comme les bananes sont sucrées, sont nutritives, apportent beaucoup de calories, quand ils en ont l'occasion, les chimpanzés préfèrent les bananes aux fruits sauvages. Par contre, c'est dangereux.
C'est dangereux pour qui ?
C'est dangereux pour eux, puisque les gens gardent leur champ de bananiers et donc vont défendre leurs bananiers en jetant des pierres ou en tirant sur les animaux qui viennent leur voler le fruit de leur culture et de leur travail. Et donc, on s'est rendu compte, dans le parc national de Kibale, où je travaille, que les chimpanzés étaient capables de modifier leur comportement pour aller voler les aliments des humains. Donc, alors que les chimpanzés vivent uniquement de jour, on n'a jamais enregistré d'activité pendant la nuit des chimpanzés, eh bien, on a observé en posant des pièges caméras, juste des caméras qui se déclenchent quand les chimpanzés passent, qu'ils allaient chaparder du maïs et d'autres aliments pendant la nuit. Donc ils sont capables de vraiment s'adapter et d'éviter le risque lié au pillage
pour essayer d'avoir ces fruits qui sont vraiment savoureux.
Ce qui veut dire qu'ils ont pigé que la nuit, il n'y avait personne.
Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup moins dangereux. Et d'ailleurs, sur les caméras, sur les vidéos, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus détendus. On les voit beaucoup moins anxieux. Ils se mettent moins en bipédie, c'est-à-dire sur leurs pattes arrière pour essayer de repérer s'il y a des dangers. Alors que dans la journée, ils sont très, très vigilants. Et donc, vraiment, c'est un comportement qui vient de se mettre en place, qui est tout nouveau.
Sabrina Krief a écrit chez Actes Sud, Chimpanzés, mes frères de la forêt. Créole Delgrès, ils ont choisi ce nom en hommage à l'anti-esclavagiste antillais Louis Delgrès. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter, l'émission où des enfants posent des questions et nous nous débrouillons pour trouver des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans. J'aimerais bien savoir si les petits enfants égyptiens allaient à l'école comme nous. Merci.
Margot, c'est moi qui te remercie parce que j'aimerais bien savoir aussi si les petits-enfants égyptiens allaient à l'école comme nous au Grotte Bel Air. Vous êtes égyptologue et surtout, vous êtes spécialisée dans la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne. Alors, on s'imagine que tout le monde est très savant en Égypte.
Pas franchement. Disons que l'école, effectivement, il y a un système d'école, Margot, ça, il n'y a aucun problème.
C'est formidable.
Mais ce système d'école ne s'adresse pas au commun des mortels. C'est extrêmement rare que quelqu'un de la basse société puisse s'élever au rang de scribe, malheureusement. Mais c'est vrai que les écoles étaient de toute façon dépendaient des administrations des temples, des administrations royales et autres, et que n'allaient à l'école que les fils de fonctionnaires.
Ceux qui avaient de l'argent. Ça, c'est en quelle année?
Oh, bah, ils vont à l'école pendant toute la durée de l'époque pharaonique. Hein.
C'est-à-dire?
Entre 2008 et 0, tout le monde va, enfin, les enfants
ceux
qui
ont, de l'argent.
Ont les moyens. C'est pas tellement une question d'argent, c'est plus une question de statut social.
Mais c'est une question de statut social, mais les écoles existaient déjà.
Les écoles existaient déjà. Les écoles existent de façon très organisée d'ailleurs, comme les nôtres, avec quelques variantes du genre, par exemple, quand l'enfant rentre à l'école, il a pareil, il a 5-6 ans, c'est-à-dire quand il rentre à la grande école, à l'école où il apprend à lire et à écrire.
CP ?
Au CP, le CP égyptien. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez donc un maître qui a un certain nombre de petits enfants dans sa classe, et que, contrairement à nous, on ne change pas de maître tous les ans. C'est-à-dire que c'est le même maître qui va suivre les enfants pendant toute leur scolarité.
Je comprends.
Donc il va suivre leur évolution jusqu'à ce qu'ils deviennent des fonctionnaires attestés ou des scribes reconnus, quoi.
Il y a des filles de Grande Belair dans ces écoles ?
Extrêmement rare. Je peux vous dire que dans toute la littérature égyptienne, on a dû en repérer 2 ou 3. Qui sont effectivement devenus scribes. Alors, à quoi conduit l'école ? Je veux dire que l'école, globalement, elle conduit à être scribe.
Parce à écrire.
Les Égyptiens ont un énorme besoin de fonctionnaires qui sachent lire, écrire et compter. En gros, c'est ça qu'on apprend à l'école. On apprend à lire, à écrire le plus correctement possible, aussi bien la langue hiéroglyphique que la langue hiératique, qui est en fait la cursive du hiéroglyphique. C'est celle qu'on utilise tous les jours au quotidien pour les rapports, les comptabilités, etc.
C'est plus rapide, j'imagine.
Beaucoup plus rapide. Et puis, on leur apprend à compter. Vous avez des livres d'exercices qui nous sont parvenus. Le papyrus Rhind, notamment, est un livre d'exercices qui s'adresse aux étudiants et qui sont une sorte de... une série d'exercices avec l'énoncé et la solution. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et,
on était scribe d'à quel âge ?
Scribe... Alors, ça, c'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'à l'âge de 14-15 ans, vous allez voir quelque chose qui va énormément vous étonner, parce que ces gens-là donc, ont des cahiers, on a retrouvé les cahiers. Et il y a un type de cahier très intéressant qui est donc le papyrus dans lequel on trouve sur une des faces les exercices d'écriture qui ont été faits par l'étudiant. Et puis de l'autre côté, vous y voyez des contes divers et variés, comme si en fait, et ça a été prouvé par les textes par la suite, l'étudiant en fin de scolarité se doit de rendre des services pratiques à l'administration pour parfaire son savoir. C'est exactement le système de nos stages.
Alors, il retourne son papyrus ?
Il retourne son papyrus et il note, il travaille. Et donc, ça, j'ai l'impression, parce que de toute façon, c'est à peu près l'âge auquel il se marie, qu'une scolarité se termine vers l'âge de 14-15 ans.
C'est l'âge auquel il se marie ?
Ouais, il se marie relativement jeune. Entre 14 et 16 ans, et les filles plutôt entre 12 et 15, quoi.
Aude Gros de Belair, égyptologue spécialisée dans la vie des anciens égyptiens, chargée de cours à l'université de Nîmes-Vauban, vient d'écrire chez Actes Sud Junior un petit polar qui se passe dans le milieu des pilleurs de tombes. L'histoire se passe il y a bien longtemps. Le pharaon Toutankhamon vient de mourir et on raconte que des richesses incroyables sont ensevelies avec lui. Est-ce vrai ? Le récit nous emmène à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon, où il y a effectivement des richesses, mais aussi des choses tout à fait inattendues. Alors, ces gamins étaient-ils les premiers à pénétrer dans la sépulture depuis l'enterrement de Toutankhamon ? On ne sait pas. Et si l'histoire inventée par Aude Gros de Belair, était vraiment arrivée ? Le mystère de la tombe de Toutankhamon s'est édité chez Actes Sud Junior. Podcastez, mes amis, ces petits bateaux. Réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Marjorie Devoux, Stéphane Combe, Alexandre Chenet, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre, Jérôme Gersin et à masquer la plume consacrée ce soir à la littérature.